Que la grâce de Dieu vous accompagne. Qu'il vous bénisse en ce temps que nous mettons à part le dimanche pour le célébrer, pour nous réunir, pour cette communion fraternelle qui nous est chère. Et le texte que je nous propose de méditer ce matin est généralement connu sous le nom de la parabole du semeur. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nomme la parabole de cette manière-là. Si on va le lire tout à l'heure et vous le verrez. Et ce qui est frappant avec cette parabole, c'est que autant elle s'appelle la parabole du semeur, mais ce n'est pas tant sur le semeur lui-même que Jésus met l'accent. On voit que l'accent est plus porté sur les quatre différents sols dont il fait la description dans la parabole. Mais ça ne veut pas dire que le fait que ça s'appelle la parabole du semeur n'a rien à nous dire. Et justement, nous le verrons tout à l'heure, que le fait qu'il l'appelle la parabole du semeur a quelque chose à nous dire. Et je vous invite à tourner vos Bibles en Matthieu chapitre 7, pas 7, 13, pardon, Matthieu 13, versets 1 à 9, et puis on continuera à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu 13, 1 à 9. Vous êtes là ? Je lis. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis le verset 18 jusqu'au verset 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alors je disais que la parabole du semeur, comme il est nommé, comme Jésus la nomme, ne porte pas tant sur le semeur en lui-même, comme nous l'avons dit, hein, vous verrez qu'il dit le semeur, et puis il passe à autre chose, il décrit ce qui se passe, il revient en verset 18, le semeur une fois, et ensuite il décrit ce qui se passe. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à en tirer du fait qu'il s'appelle la parabole du semeur. L'une des choses qui est pertinente avec les enseignements de Jésus lorsqu'il parlait en parabole, c'est qu'il maniait des objets du quotidien des gens de son époque, des choses que tout le monde avait l'habitude de côtoyer. Et dans notre texte, il utilise l'image du fermier, et donc nous on dirait fermier à notre époque. Lui, semeur, qui ensemence son champ. Et Jésus ne raconte pas la parabole pour enseigner à propos de l'agriculture, loin de là. Il l'enseigne pour poser un message, pour nous enseigner quelque chose. Et d'ailleurs, c'est le propre des paraboles. Chaque parabole a son sens, sa signification, et nous avons tout intérêt à comprendre ce qu'il veut nous dire. Il est frappant donc dans ce texte que Jésus ne précise pas quel est le personnage principal. Mais vous et moi savons très bien qui est le personnage principal. On l'a déjà deviné. Mais lui prend le soin de taire le personnage principal. Et c'est voulu, parce qu'il veut susciter chez ses auditeurs des questions. Et donc volontairement, il se tait sur le personnage principal. Et donc nous, en lisant ce texte, on se pose la question, qui est ce semeur? Qui est-il? En écoutant et en lisant ces paraboles que Jésus raconte, naturellement, on est enclin à essayer de posséder à des identifications. À quoi correspond le semeur? À quoi correspond les grains semés? À quoi correspond la terre qui plus tard pourrait porter du fruit? On se pose ce genre de questions. Et c'est donc naturellement que la question vient, qui est le semeur de la parabole? Et peut-être que la réponse peut paraître évidente à certains, peut-être moins pour d'autres, mais en entendant l'histoire, au moins certains auditeurs de l'époque avaient en tête le fait que Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, se décrivait comme le semeur. Et ça, on le voit dans les textes de Jérémie, chapitre 31 et Osée 3, ou 2, par exemple. Et dans la parabole qui suit, hein, celle-là, la parabole de la mauvaise herbe, il dit clairement que le semeur, c'est le Fils de l'homme. Et nous savons très bien qui est désigné dans la parole de Dieu en tant que Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Alors, qu'en est-il de notre texte? Est-ce que là aussi, nous pouvons trouver l'identité de notre semeur? Alors, juste avant, si l'identité du semeur n'est pas précisée, dans les versets 18 à 23, celle de la semence est clairement citée. Selon Jésus, la semence correspond au message qui concerne le royaume. Ou si l'on traduit littéralement, c'est la parole du royaume, verset 19. Or, qui est-ce qui, depuis le début de son ministère, annonce la venue du royaume? C'est Jésus. Qui est-ce qui passe de ville en village et puis proclame un message disant que « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » C'est Jésus. Et donc, lorsque Jésus parle de semeur, l'auditeur peut comprendre qu'il s'agit de lui-même, qu'il s'agit de ce Jésus qui enseigne la parole, qui sème, qui proclame cette parole. Et vous savez, si on lit bien la parabole, on a l'impression d'une mise en abîme. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, une mise en abîme. C'est quelque chose qui se passe. Alors, prenons l'exemple d'un papa qui lit une histoire à son enfant avant de le coucher. Je dis ça parce que je lis les histoires avant le coucher. Donc, le papa lit une histoire à son enfant avant le coucher. Et l'histoire qui est concernée, c'est un papa qui lui-même lit une histoire pour son fils avant le coucher. Vous comprenez un peu l'image? C'est comme si vous avez un miroir, il y a un miroir derrière vous, et le miroir reflète l'image du miroir, qui reflète l'image du miroir, qui reflète l'image du miroir, de façon incessante. C'est ça une mise en abîme. Et donc, dans le texte, il y a cette mise en abîme où Jésus raconte l'histoire de quelqu'un qui sème. Et concrètement, qui est-ce qui sème là dans l'histoire? C'est lui. Donc il raconte son histoire à lui. Et donc clairement, Jésus est en train de décrire ce que lui, il fait sur terre. Sa mission sur terre. Je suis celui qui est venu semer la parole à mes contemporains. Ceci étant dit, est-ce qu'on ne pourrait pas identifier le semeur à d'autres? Et je dis ça parce que Jésus a pris le temps de sélectionner 12 bonhommes qu'il a formés pour faire le même travail. Et donc, ça pourrait vouloir dire que les disciples aussi, devenus apôtres plus tard, sont aussi et peuvent s'identifier en tant que semeurs. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, nous qui lisons ce texte, nous avons la même mission que Jésus. En partant, en Matthieu chapitre 28, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, allez par-delà le monde et prêchez la parole. Semez, faites comme moi j'ai fait, soyez des semeurs. Et c'est bien l'intention de Jésus lorsqu'il raconte cette parabole. Je suis venu semer, oui, je fais ce travail, j'annonce, je proclame, mais vous, à votre tour, vous devenez des semeurs. Alors la question qui peut se poser, c'est que dans notre marche de tous les jours, dans notre marche de chrétiens, sommes-nous effectivement des semeurs? Faisons-nous ce travail d'ensemencement dans le champ qui est étendu devant nous? Et vous savez quoi? Ce n'est pas une option. C'est même un commandement. Allez, et faites ce travail d'ensemencement. Alors, j'ai dit tout à l'heure, malgré lui, effectivement, il parle de ce semeur, mais ce sur quoi Jésus va mettre l'accent, c'est sur les 4 différents sols qui reçoivent justement cette semence. Et on le voit à chaque fois. Déjà au verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le vilain vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Hier encore, je marchais sur un petit sentier. Vous savez, lorsque vous marchez dans les parcs, tout est vert autour, mais il y a une trace, ou il y a quelques traces au milieu de l'herbe, bien tassé, où l'herbe ne pousse pas, parce que les gens se sont amusés à marcher dessus. Eh bien, c'est ce genre de sentier dont Jésus parle. Dans les jardins, il y a ce genre de choses. Tellement que les gens sont passés dessus, mais rien ne pousse. Et donc, le semeur, il vient, il ensemence son champ, il balance des grains un peu partout, et certains tombent sur ce sentier. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais ça ne pousse pas. Il est logique que ça ne pousse pas parce que le sol est tellement dur que la graine ne peut pas pénétrer le sol pour pousser. Et donc Jésus, dans la parabole qu'il dit, décrit cet homme comme étant quelqu'un qui a reçu ou entendu la parole, mais chez qui il n'y a aucune résonance, rien ne se passe. Pas même un soupçon de réflexion. Et ça m'amène à dire qu'il y a des cœurs qui, pour l'instant, sont imperméables à la parole de Dieu. Mais imperméables. Vraiment. On aura beau leur dire tout ce qu'on voudra. Jésus t'aime. Si tu viens à lui, tu seras sauvé. Tes problèmes, ils s'en chargeront. Rien à faire. Ce n'est pas leur problème. Ils sont imperméables à la parole. Le message n'est pas écouté, donc il n'est pas compris, il n'est pas intégré. Et le problème ici ne concerne pas tant une compréhension intellectuelle, mais il est question de volonté. Je ne veux rien savoir. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à ce genre de personnes déjà. Personnes qui se disent athées ou agnostiques, ou je ne sais quoi encore, mais qui veulent rien savoir. C'est même pas la peine de parler. Je ne veux pas t'entendre. On pourrait dire en effet que celui qui, parmi les auditeurs de Jésus, ne comprend pas le message est en réalité celui qui n'en prend pas l'importance, il ne saisit pas la mesure du message que Dieu ou Jésus voudrait lui adresser. Et cela revient clairement à un refus de croire, à un refus même d'écouter. Je ne veux pas. Dans notre contexte, une telle réaction peut se traduire bien sûr par un athéisme fort, un agnosticisme avéré. Mais ce refus de croire peut prendre une forme extérieurement chrétienne, je dirais. Il y a en effet des personnes qui fréquentent nos églises et qui restent imperturbables quant au message qui est annoncé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rend maladif. Il vient depuis tellement longtemps et il entend les messages comme moi. Et des fois, j'entends des messages de repentance. J'ai envie encore de me repentir parce que le message me touche. Et ces personnes sont au milieu de nous et rien. Rien. Rien ne se passe. Le deuxième obstacle que Jésus évoque correspond aux difficultés et les persécutions de la vie. Au verset 20 et 21, il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Oui. « Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de pertinence. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Et donc, là, on voit que la première réaction à la parole, c'est la joie, c'est le contentement. Ouais, j'ai reçu quelque chose quoi, qui me réjouit et c'est tout positif pour moi. Et en transposant cette situation à notre époque, on peut penser à quelqu'un qui a reçu un enseignement chrétien, par exemple, depuis son enfance, par exemple, et qui s'en est éloigné. Et ça, on le voit très souvent, malheureusement. Des fois, les pires personnes à évangéliser, ce sont les enfants de chrétiens. Malheureusement. On pourrait croire que l'Église est un lieu propice à leur croissance, à leur conversion même. Et pourtant, cette foi, parfois, reste un point de repère. Vous savez, j'avais un frère, bon, il est décédé maintenant, depuis longtemps, c'était le seul mouton noir de la famille, sur 6 enfants. Et pourtant, lorsqu'il avait affaire à des témoins de Jéhovah, il appelait ma maman à la maison et lui demandait « Il y a des gens qui m'ont dit ça, est-ce que c'est vrai ?» Pourtant, il n'allait pas à l'église. Il a grandi dans le foyer, on a eu nos cultes familiales, tout petit. Il a compris un certain nombre de choses, mais est-ce que ça a eu une transformation chez lui ? Pas du tout. Pas du tout. On a ce type de personnes dans nos églises. On a ce type d'enfants dans nos églises pour lesquels il faudra prier dur. Dur pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Que ce sol puisse se changer en sol plutôt meuble, facile à travailler. Pour d'autres, il peut s'agir de la découverte de l'enseignement de Jésus et d'une première réaction enthousiasmante. On peut penser à toutes ces personnes qui ont fréquenté une église, qui ont entendu clairement l'évangile et qui l'ont reçu avec joie. Toutefois, cet enthousiasme initial n'a duré qu'un temps. Qu'un temps. Et ça aussi, on le voit très souvent. Des personnes qui sont venues un dimanche, deux dimanches, ils sont chauds. Ils ont reçu quelque chose de nouveau, une révélation d'ailleurs, et pourtant, le mois d'après, plus personne. Parfois le train-train de la vie quotidienne, parfois les moqueries des gens qui ont découvert que, voilà, il a fait un pas vers une croyance bizarre. Toutes ces choses peuvent dérouter. Et si on n'est pas solidement ancré dans la parole de Dieu, on est vite balayé. Et on en a comme ça. En matière de persécution, bon, il faut dire que nous, on est un peu épargnés. Mais aller poser des questions aux chrétiens de Corée, ils vous diront tout autre chose. Pourtant, nous avons nos inquiétudes. Nous avons nos prises de tête. Nous avons tellement de choses qui peuvent venir balayer nos certitudes, y compris celles liées à un engagement chrétien. Quand le fait de suivre Jésus nous amène à devoir faire des choix difficiles, quand cela nous amène à aller à contre-courant de nos contemporains, de la société actuelle, quand cela nous emmène à faire des choix familiaux, dans nos relations amicaux, on dit amicales, hein, dans le domaine sentimental ou sexuel, parfois c'est compliqué de prendre la décision et on peut vite virer de bord. Jusqu'à constater qu'un jour, il ne reste plus rien. Plus rien. Et par ailleurs, le langage de Jésus au verset 21 est suffisamment large pour inclure plus globalement les difficultés en tout genre dont nous faisons face tous les jours. Alors vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Toutes sortes de difficultés. Peut-être les difficultés auxquelles je fais face ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Mais d'une manière ou d'une autre, nous faisons face à des difficultés qui peuvent ébranler notre foi. Et si nous n'avons pas des racines solidement ancrées dans le sol, entravées par la rocaille, la roche, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous grandirons un petit peu, il suffit que le soleil nous tape et on tombe. Mais il est toujours temps de se ressaisir, non ? Toujours temps d'écouter vraiment, de faire l'effort d'écouter et d'appliquer. Je l'ai entendu là dans les prières tout à l'heure. Écouter et appliquer la parole de Dieu. Le troisième obstacle à l'accueil de la parole que Jésus évoque correspond aux soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Vous savez que les chrétiens courent après des richesses aussi. Vous le savez, ça. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, ou alors les ronces, c'est celui qui a entendu la parole, mais en lui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Ils la rendent infructueuse. Un cas de figure aussi bien courant parmi les chrétiens. Et ce n'est pas parce que on fréquente une église que ça ne peut pas nous arriver. Certainement, dans ce cas, les personnes seront preneuses de toute bonne parole de Jésus. Mais la question qui se pose est, qu'est-ce qui détermine ma vie ? Qu'est-ce qui détermine les grandes orientations de ma vie ? Est-ce la parole ? Ou ma soif de gain ? Ou l'espérance d'avoir un bon travail ? Assis derrière un bureau et touchant un bon salaire. Est-ce que c'est épouser la bonne femme et avoir la belle famille ? Est-ce que c'est ça ma motivation première dans la vie ? Ou est-ce recevoir la parole de Dieu et l'appliquer dans ma vie pour faire sa volonté ? Soit la parole de Dieu est centrale pour moi dans ma vie, soit elle n'est pas vraiment comprise ou écoutée, et je passe à côté. La question nous est donc posée par cette parabole. Notre cœur est-elle vraiment ouvert ou seulement à moitié ? Est-ce que nous sommes vraiment à l'écoute de Dieu ou est-ce que nous louvoyons comme ça ? Est-ce que je viens à l'église le dimanche juste pour qu'on me voie, qu'on me laisse tranquille, pour qu'on ne m'appelle pas, pour qu'on me dise « Pourquoi tu n'es pas venu ?» Ou est-ce que je viens vraiment adorer Dieu, louer le Seigneur, participer à la communion fraternelle, grandir dans la foi ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Cette question, elle est à poser à nous tous. Il faut que nous la posions. Elle est aussi posée aux non-croyants, aux sympathisants, aux gens de passage qui n'ont clairement pas pris position. À ces amis-là, la question est posée, et si vous acceptiez d'écouter la parole de Dieu et que vous la laissiez agir dans votre vie? Mais elle est aussi posée à nous. Et peut-être de la même façon, et si nous écoutions et nous acceptions d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies? Quel changement ça produirait, n'est-ce pas? Quel changement ça produirait dans nos vies? Et donc, par cette parabole, Jésus nous lance une invitation et en même temps un avertissement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit-il. Sommes-nous prêts à nous arrêter et à entendre, à écouter et à entendre? La bonne nouvelle, c'est que si nous le sommes, si nous sommes prêts à nous arrêter, à écouter, à entendre, si nous sommes prêts à écouter, à appliquer les enseignements de Jésus dans nos vies, elle est capable de porter du fruit. Et c'est ce qu'il dit en dernier lieu. La bonne terre, c'est celle qui porte du fruit lorsqu'elle entend la parole de Dieu et qu'elle germe et qu'elle porte du fruit. Elle est capable de nous changer, de nous transformer, de porter du fruit. Parfois 100% pour un grain, 100 fruits. Parfois 60, parfois 30, mais de toute façon, elle porte du fruit. La parole de Jésus ne peut pas être reçue favorablement sans porter du fruit. Et ça, il faut que ça rentre au plus profond de nous. Forcément, il y a du fruit. Il nous est dit par là, soyez cette bonne terre qui reçoit joyeusement ma parole et lui permet de porter du fruit. Mais donc, la question de l'état du cœur se pose aussi pour celles et ceux qui ont pris position comme disciples de Jésus-Christ. Alors, je sais que naturellement, on va essayer de s'identifier à une des terres, un des sols dont la parabole parle. Naturellement, on va essayer de savoir, est-ce que je suis cette terre bonne qui reçoit la parole favorablement? Est-ce que je suis ce sol pierreux? Est-ce que je suis ce sol sec, dur, où la parole n'entre pas? Quel type de sol je suis? Et en définitive, quelle sorte de cœur j'ai face à la parole de Dieu? Mais laissez-moi vous dire que nous avons des saisons dans nos vies. Et chacune de ces sols, chacune de cette terre, eh bien, nous pouvons nous identifier d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Parfois, nous sommes de ceux qui entendons la parole de Dieu et ça ne nous impacte pas. Rien ne se passe. Parfois, nous sommes de ceux qui entendons, ça porte du fruit, nous agissons sur la parole et nous remarquons que les domaines de notre vie où les choses sont plus difficiles à faire bouger, c'est des choses auxquelles nous tenons vraiment et nous disons à Dieu, tu restes là, moi je gère. La parabole est là pour nous rappeler ces phases de nos vies où nous avons besoin en tout temps, d'être cette bonne terre, cette terre malléable entre les mains du Seigneur qui peut porter du fruit. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous vivons de cette parole quotidiennement. C'est pas lorsque je suis dans le deuil et je vais rapidement chercher un truc qui pourra me consoler. Non, je suis quotidiennement dans la parole de Dieu. C'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me permet de cheminer dans ma vie, c'est elle qui m'oriente, c'est elle qui me permet de faire de bons choix, de bonnes décisions. C'est elle qui est au centre de ma vie. Parce que c'est la parole qui doit fixer nos objectifs de vie, nos visions, nos valeurs. Elle change en permanence notre manière de voir Dieu, notre manière de vivre nos relations avec nos frères et sœurs. Et le plus important, elle nous change en ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, on entend souvent ça. On est en recherche de la volonté de Dieu pour nous. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Alors, je vous confie quelque chose. J'étais jeune, il fut un temps. Et ma plus grande peur, l'une de mes plus grandes peurs, c'était de me tromper d'épouse. Et donc, j'étais à fond dans la prière. Seigneur, ne permets pas que je me trompe de femme. Je veux tomber sur la bonne femme, celle que tu as mise en place sur moi. Et vous savez quoi, hein? Il y a un moment donné où j'ai eu une mésaventure avec une demoiselle. Comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus. Un râteau? Et j'ai décidé, je reste seul, célibataire. Et puis de toute façon, c'est mieux. Comme ça, j'aurai plus de temps pour le Seigneur. J'avais quoi? 16-17 ans. Et j'étais parti pour, hein. Je voulais vivre seul, tranquille. Et même des filles qui me côtoyaient me disaient, il est impossible que tu n'aies pas de copine. Ah ben si, j'ai décidé. Et Hélène est arrivée dans ma vie à un moment où je n'y attendais pas du tout. Parce que dans ma tête, j'avais mis à chercher d'abord le royaume de Dieu et tout ce qui... Cherchez le royaume de Dieu. Et toute autre chose vous sera accordée. Du coup, j'ai appris à demander à Dieu, ou à ne pas demander à Dieu certaines choses, plutôt. Parce qu'il m'a promis que ces autres choses-là, ça viendra par-dessus. Lisons la parole de Dieu. Que cette parole soit notre pain quotidien, que nous puissions y demeurer et que nous puissions vraiment, vraiment l'appliquer dans nos vies. Et nous verrons les changements. Nous avons du mal à... Nous sommes susceptibles? Ouais. Nous avons un problème de caractère? Ouais. Plongeons-nous dans la parole de Dieu et examinons comment le Seigneur lui était doux. Ferme, mais doux. Et ça aura un impact sur notre caractère. Alors Seigneur, que le Seigneur nous aide vraiment à entendre ce qu'il a à dire dans ces mots, dans cette parabole pour nous, et que nous puissions vraiment prendre à cœur et l'appliquer dans nos vies. Amen.
Amen.